Je me situe un tout petit peu d'un point de vue méthodologique et critique aussi, parce que j'ai un peu, depuis quelque temps, aussi une double casquette de critique de série pour une revue, chose qui est tout à fait accessoire à mon travail principal, mais qui m'inspire et qui me met au défi, en fait, beaucoup. Donc, écrire des critiques de série, ça peut être aussi quelque chose qui m'aide à mieux comprendre comment analyser. Donc, je trouve ça très fructueux. Mais donc, d'abord, je travaille sur l'analyse de séries et de la télévision d'un point de vue historique, en me concentrant notamment sur les séries contemporaines et donc de point de vue très centré Nord Amérique du Nord et monde occidental. Donc le défi, c'est pour moi celui de comprendre un peu quelles sont les circulations à l'intérieur de cette ère culturelle quand même assez homogène. On le reconnaît, hein, donc ça, à défaut de pouvoir faire des comparaisons très poussées entre des adaptations transnationales très marquées par des cultures très différentes. Dans ce cas-là, aujourd'hui, on va rester plutôt dans une ère culturelle qui reste dominée par une hégémonie, bien sûr, états-unienne, et qui parle davantage l'anglais pour la plupart. Mais donc, je trouve que la perspective transnationale est ici très intéressante, justement pour essayer de comprendre quelles sont les dynamiques de circulation, de réception également. Donc, dans ma méthodologie, je m'intéresse, comme le disait Ariane, à cet entrelacement entre forme, technologie et réception des séries. Je pense en fait qu'une série n'est pas qu'un texte, n'est pas qu'un objet commercial, un peu comme nous le pensons nous tous et toutes, mais c'est aussi un phénomène culturel, bien évidemment, qui nous engage, qui nous fait ressentir, qui nous amène à des plaisirs très spécifiques. Et je m'intéresse aujourd'hui au plaisir de l'incertitude, un peu paradoxal dans le sens où effectivement l'incertitude, en gros, n'est pas un plaisir dans la plupart des cas, c'est davantage un sentiment qu'on essaye d'éviter. Éviter la plupart du temps, dans la vie réelle en tout cas, mais peut-être que dans les séries, au contraire, on aime la retrouver. Et donc, ceci à plusieurs niveaux. J'irai pas faire vraiment tous les détails de tout ce qu'on peut dire sur l'incertitude dans les séries aujourd'hui, pour pas déborder, mais remarquant d'emblée que une série est une entreprise quelque part incertaine. Donc, lorsqu'on commence une série, on ne sait pas si on va la continuer, si on pourra, si on voudra, si on aura envie, ou même, on ne sait pas si la série elle-même va continuer, hein. Les annulations sont très fréquentes. Et bien sûr, peut-être qu'on pourra, comme le disait David Bordwell, peut-être qu'on va pour quitter ce monde avant que la série se termine pour les séries les plus longèves. Du point de vue narratologique aussi, comme le soulignait Raphaël Baroni, l'incertitude est un moteur très puissant. Donc, c'est très important pour tout récit, pour toute forme narrative, cet aspect d'incertitude, justement, qui nous amène à en vouloir plus, à vouloir suivre le récit, et donc d'autant plus dans un récit sériel qui, comme on le sait, se constitue de rebondissements, cliffhangers et épisodes qui jouent avec aussi cette dimension de l'intervalle particulièrement fructueuse, à mon avis. Je partirai de cette idée où l'incertitude est pour moi donc un champ, un terrain très fertile, aussi avec une attention pour tout cet aspect de fragilité, d'échec, on l'a mentionné tout à l'heure. Et c'est là où les théories queer viennent en aide, dans le sens où la théorisation de l'échec queer, donc l'art queer de l'échec par Jack Halberstam récemment, donc a ouvert tout un nouveau champ qui nous aide à mettre en question nos idées de succès dans le sens très large, hein, pour Halberstam, de la culture. Il parle peu il parle pas de séries, il parle plus de cinéma ou d'animation. Mais donc cette dimension de l'échec me semble nourrir notre expérience des séries, comme je disais tout à l'heure, dans notre expérience très pragmatique, mais également on la retrouve comme un thème. Donc on voit beaucoup de personnages. Donc, Donc, c'est là où je ferai le lien avec, disons, les études sur la sérialité qu'on voit principalement, ou en tout cas ceux qui ont ouvert un peu la voie des études sur la sérialité, notamment en France. Et je pense notamment à François Jost ou à beaucoup de travaux qui ont porté sur ces gros personnages, sur ces grands personnages, des grands personnages de méchants notamment, concentrés donc sur des formes sérielles fortes comme des colonnades. Hein, c'était Brett Martin qui parlait de ça, ou sur ces grands personnages, donc Tony Soprano ou Donald Draper, qui étaient des personnages quelque part incertains, si on veut, et même l'art de ces séries-là se basait sur leur défaite ou sur leur transformation dans tous les cas. Mais ils se montraient finalement des irréductibles, et les séries elles-mêmes étaient des séries fortes comme des monuments qui ont justement aussi validé hein, ces idées de quality television ou de télévision de prestige qu'on connaît bien. Aujourd'hui, donc, une autre tendance se dessine en filigrane. Elle est encore peu étudiée, à mon avis. De plus en plus de séries mettent au centre des personnages imparfaits, fragiles, au cœur de projets narratifs qui sont eux-mêmes instables. Il s'agit d'un plaisir pour l'expérimentation formelle, l'échec, le malaise ou la déconfiture. Donc, je vais essayer de cartographier un peu sous l'égide de mon personnage préféré ici, qui est donc le personnage de Chris Cross dans I Love Dick, donc petit clin d'œil à Dick et Beach, parce qu'il s'agit justement d'une fictionnalisation de la relation, bon, bref, en tout cas, entre Chris Cross et Dick et Beach. Joué par Catherine Hahn, extraordinaire, qui propose ce mélange entre humour et échec, justement, qui me semble un peu, en tout cas, qui a porté quelque part, qui a inspiré tout ce chantier actuel. Et donc, je commencerai par définir l'incertitude, on l'a déjà un peu fait, pour ensuite montrer quelques exemples, des extraits qui nous permettront de mettre en évidence, à travers donc la logique transnationale, des phénomènes que j'espère nuancer. Des remarques méthodologiques ponctueront le parcours et nous verrons que les exemples soulèvent des enjeux politiques et que le principe d'incertitude peut se décliner dans des concepts comme le malaise, l'indiscipline, la désorientation, le grotesque, la sauvagerie. Je vais terminer avec quelques remarques pour questionner à nouveau frais mon positionnement. Donc, on peut commencer par une citation de ce qu'une lectrice écrivait, ici donc citée par le New York Times le 22 septembre 2020, qui disait pendant ces temps bizarres, on était déjà dans la période de la pandémie bien entamée, on dirait que les seules séries que j'arrive à consommer ont des épisodes courts, un point de vue comique, mais aussi sombres, sont souvent émouvantes, possèdent un sens de l'absurde, tout en restant ancrées dans une réalité familière. Elles ne craignent pas l'ambivalence de l'existence humaine, s'intéressent à l'amitié, à la famille, tout comme aux relations romantiques et font volontiers usage d'une excellente musique. La lectrice ici exprimait donc un amour, un plaisir pour des séries basées sur la brièveté, l'humour, l'émotion, voire le trauma, et l'incertitude donc en filigrane. Il me semble donc que l'incertitude se situe dans cette époque de manière assez définie, justement, bien sûr parce qu'elle anime notre façon d'être au monde. Les séries participent de ce sentiment que nous avons de l'époque contemporaine en tant que récit qui propose donc une expérience de la durée, de relance continue et d'hésitation. Mes observations s'appliquent en panorama principalement occidental, incluant le paysage nord-américain des États-Unis et du Canada anglophone et francophone, le Royaume-Uni, et je mentionnerai également un exemple qui implique l'Italie et HBO. Un paysage donc plutôt homogène, il faut le dire, est marqué par la force hégémonique des États-Unis, ainsi que, de manière, donc, comme soulignait tout à l'heure, de manière de plus en plus évidente, d'acteurs globaux comme Netflix, qui donc déploient des logiques transnationales. Donc, c'est intéressant de questionner, comme on commence à le faire depuis ce matin, donc l'articulation entre dimension globale et dimension transnationale, ce qui n'est pas la même chose et qui est bien évidemment donc une différence informée de toutes ces relations de pouvoir et d'hégémonie. L'approche Donc, à l'intérieur donc, de ce paysage, on peut identifier donc, certaines formes, des formats et des sensibilités de plus en plus partagées à travers les frontières de ces aires culturelles dominantes, marquées par donc, une proximité culturelle. L'approche transnationale nous permet, à défaut donc, de mettre en évidence des comparaisons de pays plus éloignés ou moins représentés mondialement, de souligner quelques nuances d'une structure de sentiments typique d'un moment précis de la culture et donc d'une ère culturelle, celle capitaliste occidentale, qui traverse une profonde crise dans le monde actuel. Donc les années récentes voient une abondance de discours qui portent sur l'incertitude politique, économique, écologique, sanitaire face à une recrudescence de l'extrême droite à l'échelle globale, une augmentation des violences policières, une polarisation des discours dans les espaces en ligne. Et bon, la liste est longue, hein, incluant les fake news, la pandémie bien entendu, ainsi que l'explosion du conflit qui culmine depuis le 24 février en Ukraine. Le besoin de résoudre le doute concernant la véridicité des informations que nous recevons nous demande de devenir adaptables après avoir remis en cause nos certitudes. Donc ambiguïté, contradiction, et quelque part, donc, on lit de plus en plus depuis 2020, on retrouve le terme incertitude. Donc, mon entourage me disait, tu vois, c'est pas toi qui l'as inventé, ça existe, et ne cherche pas tout le temps ce terme, parce qu'il était déjà tout le temps là. Mais effectivement, c'était pas seulement moi qui commençais à le voir partout. Et donc, le devoir quotidien principal au Québec mettait de l'avant le 19 décembre 2020 un dossier qui avait pour titre 2020 et la déflagration complète de nos repères. Le magazine international en Italie sortait le 28 novembre 2020 le dossier « La valeur de l'incertitude ». Donc, nous pouvons remarquer donc, ce lien avec la possibilité, tel cet œuf suspendu sur un fil, de chercher quelque part aussi la valeur dans la fragilité, dans l'équilibre temporaire. On pourrait aussi citer Zygmunt Bauman qui décrivait la dimension fluide de notre époque et qui exposait le besoin d'une morale de l'incertitude en la décrivant comme le foyer, en décrivant l'incertitude comme, je cite, le foyer de la personne morale et le seul sol d'où la morale peut jaillir et s'épanouir. Le sociologue dénonçait la facilité avec laquelle les sociétés développent un besoin de contrôler l'incertitude vécue comme une menace et déplorait que les réactions consistent à construire des murs ou de fuir au lieu de trouver des moyens d'y faire face de manière communautaire. Donc je trouve que les genres et les formats sériels contemporains possèdent une résonance, proposent, jouent avec cette résonance, avec cette époque de crise et nous aident à façonner notre perception de l'époque que nous vivons. On peut parler donc de séries comme des composants de l'hypothèse culturelle qui parcourt notre temps. Ainsi, elle participe à une structure de sentiment de l'incertitude. Donc, ce que Raymond Williams, le théoricien britannique, définissait comme « structure of feeling » depuis 1960, comme donc le sentiment partagé d'une culture ou d'une génération donnée dans une période donnée. La structure de sentiment serait une sorte de langage commun qui assure l'intelligibilité des communications. Elle peut concourir à regrouper certaines manifestations artistiques ou des expressions sociales dans le monde d'aujourd'hui, dans lequel nos solutions sont perçues, donc, dans le cas de l'incertitude, comme fragiles et incomplètes. Ce qui est intéressant dans le cadre de séries et quelque part pour justifier mon corpus, j'ai l'impression donc, que le sentiment, la structure de sentiment donc, n'est vraiment pas à penser comme une définition, une étiquette ou une périodisation globale ou une périodisation donc, générale. Au contraire, il faut la considérer comme construite socialement, mais quelque part aussi considérée par les personnes qui la vivent comme privée, idiosyncrasique et même source d'isolement. Donc, selon Williams, elle nous permet donc quelque part de rendre compte aussi de notre relation très individuelle avec ces séries, sans que ces séries-là se reconnaissent comme un nouveau mouvement ou un nouveau genre. Ce n'est pas bien sûr par paresse scientifique. Au contraire, je pense qu'il y a là une nuance qui nous permet de saisir ensemble un ensemble de séries ou de traits communs et de mieux comprendre quelque part ce que pour certaines personnes, à certaines périodes, dans certains contextes, elles peuvent nous faire. Donc, notre relation est d'abord et bien sûr toujours très individuelle, très privée avec les séries avant d'être publique et partagée. Hein. On a parlé de la culture de la convergence et donc tout ça, évidemment, nourrit toutes ces réflexions. Donc, ma méthodologie est ancrée dans la volonté de travailler sur le lien entre ces formes, aussi ces technologies qui permettent une mise en réseau et aussi donc des réflexions qui, bien sûr, sur la réception qui est toujours d'abord individuelle. Donc j'ai l'impression aussi que les études queer nous permettent de mettre de l'avant une sensibilité, des sensibilités marginales qui, encore une fois, nourrissent le plaisir pour l'échec. Donc l'approche transnationale est à concevoir ici comme complémentaire et essentielle à ces outils en ce qu'elle met à jour des formes de circulation de contenu médiatique sériel et aussi les frictions et les relations de pouvoir. Suivant Andrea Esser, le terme transnational est très important et encore une fois à distinguer de global parce qu'il désigne une pluralité de producteurs, mandataires, distributeurs et acheteurs de programmes qui travaillent quotidiennement hors des frontières, mais aussi à l'intérieur de flux locaux et de impératifs locaux dans une toile complexe de collaboration et interdépendance, dans laquelle, évidemment, notre réception est aussi prise dans ces logiques de réseau et d'influence. Ces circulations sont à lire, si on suit Jean Chalabi, dans une dimension systémique. Alors, c'est peut-être un peu moins le cas dans les temps les plus récents, j'ai l'impression, où notamment la dimension systémique et hégémonique des États-Unis va se multiplier, se désintégrer quelque part. Mais encore, soulignons cette dimension en réseau. Les productions de sens sont interreliées. Et également, si on parle de système, des formes émergentes peuvent se manifester. Et c'est là où, dans le cadre de la culture de la convergence, je trouve très intéressant de remarquer la possibilité donc, de l'émergence de phénomènes grâce à la spreadability que Jenkins, Ford et Green définissent comme une des composantes de la convergence. Et donc, la possibilité que certains contenus ou encore certaines formes très spécifiques ou certaines réactions des publics puissent circuler d'une manière non prévue par la production officielle. Et donc, c'est aussi dans ce cadre qu'une dimension d'incertitude peut être visible quelque part, dans le sens où c'est ça, on ne sait pas comment mesurer le succès de manière très précise, parce que la dimension éphémère de quelques contenus peut parfois supplanter des tentatives de marketing plus structurées. Remarquons également, selon Jenner, dans le cadre de la culture télévisuelle des plateformes, ce que je disais tout à l'heure, la production d'un espace transnational par des acteurs globaux comme justement Netflix. Donc, si on revient un peu à l'incertitude, on remarquait tout à l'heure la question donc narratologique. Il ne s'agit pas que d'une question qui porte sur la structure du texte, mais également sur la forme. Et avant de plonger dans le très contemporain, remarquons qu'elle a toujours servi un art des séries, ou alors la définition d'un art des séries. Donc, un petit détour sur la présence de l'incertitude dans l'histoire récente de la sérialité. Toute série est potentiellement source d'incertitude. Pour la dimension esthétique et formelle, par contre, l'incertitude caractérise quelques séries, va de pair avec la mise en place de projets ambitieux qui ont marqué au début des années 90 la télévision complexe, pour reprendre le terme bien connu de Jason Mitchell. C'est dans le sillage de Twin Peaks et de ce que Martin Hutchinson définit comme « off-track storytelling », donc une narration qui s'écarte, une narration hors sujet, que plus tard, des séries comme Mad Men ou Les Sopranos pourront arriver à créer des figures imparfaites, hésitantes, et en promouvant une vision du monde ample et fragile. Cette vision est liée au modernisme littéraire, cinématographique et philosophique, ce qui permet de donner aux séries une stature d'art du récit et donc de télévision d'auteur, comme il était le cas pour la nouvelle vague française, marquée par cette dimension paratélique symbolique canalisée sur le processus d'énonciation que la répétition encourage. Et donc, si on reprend le bien connu opening de Mad Men, Ariane, je ne veux pas être redondante avec ton travail, mais donc on peut remarquer que les analyses sont abondantes sur, sur le sujet des raisons d'aimer des figures comme Tony Soprano ou Donald Draper, qu'on voit vraiment tomber du haut d'un immeuble. Donc, il s'agit bien de personnages qui tombent. Il s'agit bien de personnages qui vivent dans une société en transformation, mettant à mal les distinctions morales ainsi que notre engagement. Mais, encore une fois, ces personnages tombent, mais ils retournent, ils reviennent dans une position ici, on voit bien, assise, bien installée dans son fauteuil, encore dans une position d'homme blanc dominant, qui arrive à avoir une emprise, une maîtrise du territoire, de son espace, de son monde. Même dans Breaking Bad, on voit la fin, si on veut, tragique du personnage, mais qui, dans sa mort, arrive à se venger, arrive à, encore une fois, peaufiner son projet criminel. Donc, quelque part, ces séries demeurent des récits monumentaux. Les personnages tombent, mais restent debout. Et la structure est, encore une fois, celle d'une œuvre solide et comme une colonnade. Le panorama récent favorise, au contraire, des récits sériels voués à l'excentrique, à la maladresse ou encore à la frustration due à la, superposition de réponses. Il y a une difficulté aussi, je disais tout à l'heure, dans la tentative d'établir un corpus. Donc, même ma méthodologie, si on veut, embrasse la dimension de l'incertitude, on peut l'avouer. Plusieurs séries sont convoquées. Le lien se trouve dans cette incertitude qui anime les personnages, façon de faire les séries aussi, monde et forme narrative. Un certain nombre de choix thématiques et formels apparaissent donc à travers différents pays comme emblématiques, et ça c'est un premier point à souligner. Signalons par exemple une présence dominante de la dramédie, ou cette forme qui naît à la rencontre entre un format, celui des 30 minutes typiques de la comédie, et un genre, le drame. On parle même de « traumédie » pour certaines séries comme Transparent, qu'on voit en haut à droite. Traditionnellement, donc, la sitcom a représenté un foyer très important pour la nouveauté, pour le renouveau des représentations, demeurant quelque part davantage sécuritaire que le drame pour aborder des questions liées justement à des sexualités minoritaires ou encore des identités racisées qui sont encore peu exprimées à la télévision, parce que considérer donc la sitcom en genre moins sérieux, donc moins sérieux que le drame, donc ce serait moins grave de passer par la comédie pour finalement raconter des histoires portées par un thème très fort. Et j'ai l'impression qu'encore aujourd'hui, dans toutes ces séries, une dimension d'humour, un emploi particulier de l'humour, dans tous les cas, s'affirme. Bon, on voit une photo, une image ici d'Euphoria dans laquelle l'humour est plutôt absent. J'ai quand même voulu la garder en termes donc, de poids et d'importance à la fois visuelle et thématique dans le panorama actuel. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il s'agit plutôt donc, de situer certaines nuances sur le plan transnational. On parle d'objets qui viennent de plusieurs pays différents, mais qui ont en commun un ensemble de traits spécifiques. On peut parler de grammaire de transnationalisme. Marijke Jenner en parle dans sa définition des manières par lesquelles Netflix serait justement une des responsables, même un accélérateur d'une réinvention de la télévision, et pour elle, donc, dans le cadre de la forme et des thèmes, il y a aussi un certain ensemble de formes et de thèmes qu'on retrouve à travers ces productions. Donc encore une fois, sans vouloir faire un agrégat trop général de toutes les formes des Netflix, est-ce qu'on peut parler d'une forme Netflix, ça serait peut-être une passerelle pour des discussions à venir, mais dans le cadre de ce corpus, on peut éclater, on peut quand même trouver justement quelques thèmes et quelques aspects formels qui reviennent. Donc la présence de personnages marginaux, des femmes, des adolescentes, des queers, des personnes âgées. Dans le cadre d'une attention croissante donc, dans la pop culture pour la représentation de ces subjectivités marginales, l'incertitude émerge en lien avec aussi donc, des formes et des tentatives plus fragiles. On pense encore à I Love Dick, série très expérimentale de Joyce Holloway qui a été annulée. Justement après une première saison qui a quand même beaucoup fait parler, notamment la critique. Donc il y a des nouvelles configurations quand même qui se tentent, encore une fois, vers la création d'expériences de doute, de désorientation, et qui peut-être ont moins peur de l'échec. Évidemment, on peut parler d'échecs garantis par certains choix de type économique et politique qui, justement, encouragent, hein, dans l'époque des plateformes, ce type d'expérimentation. Ça ne serait pas possible dans une logique de télévision linéaire, de network, de faire ce genre de travaux. Et donc, avec Netflix ou Amazon Prime Video, on remarque donc que l'incertitude devient une stratégie de marché à lire dans le cadre d'un humanisme libéral des plateformes dont a parlé aussi dans sa thèse Hélène Breda, ici présente. Pour les questions de genre notamment, j'ai l'impression que l'humanisme libéral est au centre des séries Netflix. Le géant de la télévision par contournement donc applique une politique visant la diversité, la représentation de personnages. Donc, il y a carrément, on peut retrouver sur le site officiel de Netflix toute une série de dossiers qui montrent à quel point l'effort a été fait pour inclure des nouveaux talents ou des nouvelles personnes capables d'apporter ce renouveau, cette diversité qui, évidemment, vend bien et qui est un peu, en tout cas en Amérique du Nord, partout dans toute industrie, y compris dans l'université, hein, un choix de plus en plus gagnant et qui pose énormément donc de conflits. Donc on retrouve, il est donc intéressant de se demander si ces logiques, s'appliquant aussi bien à la représentation qu'à la production, se retrouvent dans d'autres pays ayant une proximité culturelle avec les États-Unis. Jenner va justement proposer une explication montrant qu'en effet, c'est aussi sur le plan d'une plus grande ouverture que le parcours de Netflix, dans sa course à la conquête de territoires nouveaux, va dans ce sens, tout en garantissant un équilibre. Alors, tout en faisant montre de garantir un équilibre avec les instances locales, mais comme on disait tout à l'heure, évidemment, l'imposition de nouvelles normes va représenter davantage un conflit culturel. Donc on peut parler d'une influence des plateformes à l'échelle globale et de ces tentatives de type transnational de mettre en place ces formes particulières. On peut mentionner donc le personnage de Mora dans Transparent, Fleabag dans la série éponyme, les adolescents et adolescentes de toutes les séries adolescentes à partir de Sex et, bon, qui inclut Sex Education peut-être la plus visible, Nadia de Russian Doll ou encore Issa dans Insecure ou encore les mamans de Working Mom au Canada, ou la protagoniste qu'on voit ici de la série québécoise Fourchette, des individus qui ont de la difficulté à rester en surface, qui se transforment ou qui procèdent par tâtonnement. Voici des protagonistes qui perdent pied dans des œuvres qui mélangent les genres, nous encourageant à rire pour ensuite nous livrer un message plus inquiétant. Ces caractéristiques, donc, on le voit bien, ne sont pas des caractéristiques universelles. Et les plaisirs et les émotions qui découlent de ces expériences sérielles sont loin de pouvoir plaire à tout le monde, hein. J'avais fait une conférence sur le cringe et sur le awkwardness en Espagne récemment, en Espagne à distance. Et justement, j'étais convaincue de proposer des expériences en parlant de Fleabag, notamment très très compréhensible pour tout le monde. Mais effectivement, je me suis rendu compte que les questions soulevaient davantage des questions de friction. Donc l'humour, c'est toujours une question très ancrée culturellement, et le cringe peut-être davantage. C'est plus difficile à recevoir, évidemment. Donc encore une fois, on parle de niches culturelles et de stratégies de marché qui visent justement à répondre à ces besoins de plus en plus éclatés, mais visant la dimension de l'authentique, mot-clé qui revient beaucoup dans la critique notamment, et dans les discours des fans qui font l'éloge de certaines séries. Bien sûr, la prise de parole des femmes est un phénomène qui, depuis donc 2017, avec le mouvement hashtag MeToo, devient de plus en plus visible, déjà beaucoup théorisé pour les séries. On peut mentionner aussi le travail récent de Céline Morin qui va montrer montrer comment, en fait, la télévision a été avant-gardiste dans la mise en place de femmes, personnages féminins plus nuancés que dans d'autres médias. Mais c'est clair que les séries des dernières années ont contribué à donner une nouvelle place à des figures de femmes fortes, des détectives aguerries, des docteurs, des avocates ou des mères de famille qui gèrent des drames complexes, mais aussi, surtout, des femmes aussi fragiles. Et c'est peut-être là une des petites avancées féministes vers donc une plus grande nuance ou la possibilité de rire de nous-mêmes, qui est quand même très difficile à faire dans un paysage d'oppression. Et donc, on retrouve un intérêt pour l'alliance entre subjectivité minoritaire et culture de masse. Donc, je n'ai pas voulu faire un travail que sur les femmes. C'était un peu mon orientation initiale, mais j'ai trouvé que ça serait vraiment moins inclusif. Donc, une perspective transféministe me semble beaucoup plus importante à ce moment. Donc, c'est pour ça que mon chantier inclut des ados, des personnes trans et des hommes aussi, sans restreindre justement à la dimension de la femme, qui est pourtant encore évidemment une lutte à mener. Il m'a amené tant dans la représentation que dans la dimension de la production et de la recherche. Donc, adapter la méthodologie à l'incertitude, s'appuyer sur la théorie queer, me semble très productif. Donc, non seulement la dimension de l'échec, mais également celle de la sauvagerie, qui me semble en termes alors très chargé politiquement, culturellement, dans le sens où, évidemment, il évoque l'opposition coloniale entre nature et culture, entre civilisation et tout ce qui reste en marge de la civilisation, selon donc les colonialistes. On a donc une réflexion qu'Albert Stamm propose très récente sur la sauvagerie comme effectivement une force qu'il faut assumer à nouveau frais, qu'il faut redécouvrir et justement tout en tenant compte de cette dimension des oppressions qu'elle mène, mais en l'utilisant justement pour déconstruire tout ce que la modernité a voulu apporter et établir en termes de façon de mesurer, façon de contrôler le monde. Et donc, il me semble que l'incertitude est aussi nourrie peut se nourrir donc aussi de cette dimension de sauvagerie, justement parce que la sauvagerie met à mal nos règles, établit notre façon de lire le monde. Encore une fois, ces séries-là, certaines de ces séries vont nous proposer des sauts dans le vide de personnages qui laissent tout ce qu'elles avaient pour découvrir de nouveaux mondes, suivre leurs désirs, s'abandonner à des quêtes absolument farfelues. C'est souvent le personnage de Catherine Hahn qui incarne ce genre de personnage. J'ai une obsession, Frédéric le sait. Mais aussi d'autres, je pense aussi à Killing Eve, très grand projet d'ailleurs très transnational, très ancré dans une véritable exploration du territoire européen. Il y a certaines études là-dessus qui sont en train de se faire et issues d'une collaboration de BBC America et BBC pour donc raconter une histoire d'un désir fou entre deux femmes qui se mêlent de manière tout à fait farfelue à un thème de genre criminel, de détective, policier, avec des situations très grotesques. Ou encore donc la possibilité d'imaginer des formes de désorientation, que ce soit par la forme ou par la trajectoire des personnages, en dessinant parfois des utopies, donc des lieux difficiles à imaginer, mais que certaines séries, justement, je trouve, par leur incertitude, par leur fragilité, par leur volonté de se situer en marge ou à l'écart de récits dominants ou de récits très clairement définis, qui peuvent proposer des alternatives. Parfois, donc, on ne les aime pas, hein, ces séries-là. We Are Who We Are, série donc, fruit d'une collaboration entre l'Italie et HBO, est une série très ambitieuse, peut-être très prétentieuse également, mais qui met par le cinéaste Guadagnino, qui est donc le cinéaste qui a fait aussi sa fortune sans succès en affirmant une cinéphilie vraiment exagérée ou très très marquée, et qui donc investit le monde des séries avec un projet tout à fait ambitieux. Donc une série peut-être vraiment pas pour tout le monde, mais qui par peut-être, je trouve, cette incertitude qu'elle propose, suggère des possibilités nouvelles. Aussi, mentionnant le paradoxe hein, de parler de queer et de télévision, dans le sens où lorsqu'on parle de queer, on parle de marge, on parle de culture et d'individus qui ont subi des oppressions et qui ont été justement donc exclus hein, de la possibilité, en tout cas simplement d'exister à travers cette étiquette, alors que la télévision reste un média de masse. Et donc plusieurs études qui sont très, très importantes pour ma recherche vont justement travailler sur ce paradoxe. Est-ce qu'on peut parler de télévision donc, qui veut vendre, qui est animée par, par la volonté de survivre quelque part, notamment dans une perspective sérielle de durée, et de queer, donc d'une volonté de déconstruire, de questionner quelque part la marge. Donc je trouve que justement, encore une fois, l'incertitude se situe aussi au niveau théorique et de la méthodologie et peut devenir très fructueuse. Donc quelques mots-clés qui guident ma recherche: malaise, désorientation, doute, grotesque, indiscipline, sauvagerie, échec. J'aurai donc un extrait d'une série québécoise. On va vous montrer Fourchette, qui est peut-être une série que vous ne connaissez pas. Il s'agit là d'une bande-annonce.
Avant, ma vie était simple. Puis mettons, là, ton chum t'écris le même matin. Tu penses pas que tu vas te trouver forte en hostie de vivre ta vie comme une grande sans ton nom pour te rassurer?
Tu me cherchais?
Ouais, t'étais où? Cette belle aurait pu me fabriquer des enfants super talents, mais super wise en même temps. Il me donnait le goût d'être plus souvent fine que pas fine, de rire fort tout le temps, de m'aimer tout nu. Avec lui, j'avais peur de rien sauf peut-être de le perdre. Grâce à toi, je me trouve belle de profil, que tu sais que c'est un exploit, fac. Tu mérites un moment d'amour. T'en veux-tu ta vie à l'ensemble? Je t'ai heureuse, je pense.
Donc voilà, donc c'est une web série dramatique adaptée d'un blog littéraire de Sarah Maud Beauchesne. Et a été produite donc par Attraction Images, qui est une maison de production, et qui a été diffusée sur ici2.tv, qui est donc la plateforme officielle de Radio-Canada, depuis le 13 mars 2019. Donc on y retrouve des éléments propres à la dramédie, le format court, les épisodes sont donc très courts, la volonté d'aborder le thème de la vie privée d'une protagoniste, une femme, de manière humoristique et dramatique, en mettant l'accent sur des aspects comiques, tout en dévoilant progressivement une dimension plus sombre. La série aborde par ailleurs de façon très directe des questions de sexualité dès le début, de rencontres, mais aussi de remise en question de l'orientation de personnages, de relations de couple, d'échecs des relations. Les personnages, le personnage principal et les personnes qui l'entourent sont fragiles, hésitent, perd de pied. Donc, j'ai vraiment l'impression de retrouver ici, et peut-être vous l'avez remarqué, quelques liens avec la dramédie états-unienne ou encore l'expérimentation proposée avec Amazon par la scénariste britannique de Fleabag, qui propose donc une expérience très similaire. D'ailleurs, en parlant avec Sarah Maud Beauchesne, je lui ai demandé s'il y avait des influences, mais elle m'a dit « Ah non, tout le monde m'a dit, mais non ». Donc je trouve ça assez drôle, mais les deux choses se sont faites à peu près en même temps, donc ça se peut qu'il n'y ait vraiment pas eu d'influence. Il s'agit quand même donc d'histoires similaires, d'histoires qui visent encore une fois la brièveté d'épisodes courts de la vie quotidienne de tous les jours et la façon aussi de filmer ou l'écriture scénaristique suivent justement l'idée d'une hésitation, l'idée aussi d'ellipse, on ne sait pas trop ce qui se passe entre une saison et l'autre, ou alors on le sait, ça dépend des saisons. Donc il n'y a pas vraiment une structure forte ou un récit tel, hein, évidemment, ce qu'on voyait pour Mad Men ou Breaking Bad. Ces personnages sont également des personnages, ici, Issa dans Insecure, qui vivent dans des situations où elles remettent en cause la situation dans laquelle elles se trouvent, le monde dans lequel elles se trouvent, voire les oppressions qu'elles vivent, selon une force qui se rapproche de l'indiscipline ou de ce que Sarah Ahmed définit comme willfulness, donc la volonté de vouloir donc aller à l'encontre des règles, ne pas vouloir se plier, ne pas réussir à se plier aussi pour des questions de caractère ou de volonté politique. Ou encore, on retrouve carrément une position militante qui est celle de la feminist killjoy, donc la personne qui, justement, à partir d'une perspective féministe, va justement briser hein, le cadre dans lequel elle se trouve pour une question donc, de remettre en question ce cadre même. On a aussi donc la désorientation dans laquelle la cohérence quelque part se perd et encore les normes sociales, les règles ou encore les masques qu'on porte, suivant Goffman, vont éclater suite encore une fois dans ces séries une volonté individuelle, un désir individuel. Remarque à faire, effectivement, il s'agit là souvent de séries qui mettent en scène des familles, des groupes d'amis, mais encore une fois, on reste dans le privé, on reste dans une dimension assez individualiste ou en tout cas très microscopique. Hein. Il s'agit là vraiment d'expérience du microscopique. Et donc, autre thème, autre concept qui nourrit ce genre d'expérience et qui traverse encore une fois les frontières de manière très différente, hein, quelque part un peu différente en s'adaptant au contexte, le grotesque. Les situations incongrues qui vont jusqu'au point de nous déstabiliser, remettre en question notre manière d'ordonner le monde, jusqu'à nous déranger profondément. Et ceci peut avoir encore un potentiel féministe. Des études travaillent on travaillait dans les années 90 sur le female grotesque, donc sur cette dimension de briser la norme que la tradition attribue aux femmes. Et donc la présence aujourd'hui d'un nouveau female grotesque me semble quelque chose à signaler et à approfondir, encore une fois, en lien avec cette incertitude dans ce qu'elle a de proche avec tout ce qui est briser les limites entre le rire, la surprise, le dégoût, l'horreur, voire, et donc, encore une fois, traverser des sphères différentes en proposant des situations tout à fait inattendues. La série « C'est comme ça que je t'aime », série récente québécoise depuis 2020, diffusée également en France depuis 2020 elle-même, et qui voit maintenant une deuxième saison depuis le mois de mars, a fait beaucoup parler, justement parce qu'elle propose une situation tout à fait incongrue où des familles très très normales dans les années 70 se découvrent des criminels aguerris. Mais toujours en mêlant humour, surprise, horreur et dégoût. Autre point, en lien avec la sauvagerie dont on parlait tout à l'heure, le fait que la sauvagerie peut devenir, dans le contexte d'échanges transnationaux, un objet donc très, très vendeur, et donc un thème très, très vendeur. Donc elle contribue carrément à la valeur d'échange de la série. Ici, pour la série italienne My Brilliant Friend, adaptation de la très célèbre trilogie d'Elena Ferrante, va jouer aux États-Unis, et en fait déjà la source littéraire avait eu ce type de réception, la carte de la sauvagerie. Si on trouve dans un article de Sophie Gilbert une définition donc, de cette série comme « gorgeous Innocence and Savage. Donc, cette idée d'une beauté magnifique traditionnellement attribuée au paysage italien, à la culture italienne, à la bouffe italienne. Donc, on cite notamment le limoncello doux et très violent en même temps. Et donc, bien sûr, cette série va jouer ses cartes et elle le fait savamment. Hein, son marketing aussi va jouer dans une logique de vente transnationale, notamment sur HBO pour les États-Unis, ce genre de force portée par une sauvagerie, mais quelque part évidemment avec aussi des enjeux politiques que on pourra approfondir par la suite, aussi en lien, je dirais, avec le concept de stage marginality, qui est un de ces concepts qui font partie des études transnationales, qui me paraît assez intéressant dans le sens où toujours dans des logiques d'interdépendance symétrique où plusieurs pays développent leur propre marché télévisuel indépendant. Il ne faut pas oublier que donc, les rapports de force sont toujours en place et les questions de proximité culturelle vont être maintenues de manière très active par les publics, où le sentiment de voisinage sert évidemment à nous, en tout cas est mobilisé lorsque nous approchons une série reconnaissable par leur langage, style, lieu et thème. Les contenus provenant de pays plus éloignés culturellement et qui se démarquent comme différents deviennent par ailleurs intéressants, surtout en raison d'une stéréotypisation, on le voyait pour My Brilliant Friend. Donc la sauvagerie, loin de représenter seulement un point de départ pour une lecture radicale et inspirante, est aussi le signe d'une fétichisation qui va avec. On pourrait également mobiliser tout ce qu'on a dit sur le queer pour les mêmes raisons. Dans les mêmes logiques. Elle reste prise dans une logique binaire, encore une fois, une différence qu'on fait avec les autres. Hein. Donc, on n'en est pas sorti, même le fait que la logique transnationale encourage la recherche de ceux qui viennent d'ailleurs ou cultivent des niches, justement, ne nous sort pas de cette logique où les autres sont vus soit comme une menace, soit comme une ressource exotique. Et donc, évidemment, je pense qu'il y a encore énormément de travaux à faire en lien avec les études postcoloniales, les études queer, pour mieux comprendre comment les producteurs de contenu vont développer des tactiques, des stratégies, pour renforcer certains traits qui seront lus comme utile pour le bénéfice, encore une fois, d'un consommateur dominant. Et ceci peut être justement en creux de tout ce qu'on vient de dire et tout ce chantier qu'on vient d'ouvrir sur la question vue par les études culturelles de ces appropriations des publics qu'il ne faut pas voir de manière naïve comme tout simplement positive et optimiste. Donc voilà, comme conclusion, le positionnement de l'incertitude, donc l'incertitude n'est pas juste un thème, on l'a compris, mais il me semble un positionnement utile pour vivre dans la situation actuelle. Notre positionnement, mon positionnement de chercheur est aussi un élément qui contribue à l'incertitude en étant à cheval entre plusieurs pays. Donc mon origine, ma posture, mon accès, mon privilège, bien entendu en tant que prof, simplement le fait de pouvoir me payer l'accès à des plateformes, hein, comme on disait hier, et aussi les limitations en termes de geoblocking. J'ai toujours pas réussi à voir, parce que j'ai pas voulu télécharger légalement la version française de Fleabag, mais voilà. À faire. Et donc voilà, tout ce genre de réflexion va peut-être pas digne d'être vue, mais vous me direz. Mais donc l'incertitude, d'un point de vue narratif, est un outil précieux. Elle incite aussi à se laisser aller, à embrasser la puissance de l'instabilité et à accepter l'échec en adaptant nos approches et nos méthodes. Donc, tandis que nous continuons à étudier les textes télévisuels comme des espaces où les valeurs de la société sont jouées, rejouées et discutées, nous comprenons que le temps est nous de nous laisser le temps de créer des avenirs utopiques et bienveillants où l'incertitude ne doit pas être considérée comme une limitation de notre productivité, mais comme un encouragement à faire un pas en arrière. Et c'est dans ce cadre où perdre pied pourrait signifier donc apprendre à faire les choses différemment. Et c'est ce que je nous souhaite. Merci.